Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nos limites. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la DAO et de l'attaque qui la concerne. Et pour discuter de ce sujet, nous recevons David Ron. Bonjour David.
Bonjour.
Et les contributeurs Nos Limites Sécu sont Christophe Renard.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Uloa. Alors David, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour nos auditeurs ?
Donc, je m'appelle David Rohn, je suis un développeur de Zurich. Donc, je suis depuis maintenant début de l'année très impliqué dans la communauté Ethereum, en faisant des développements, des articles et aussi des événements, que ce soit en Suisse ou aussi en Allemagne.
Alors, Ethereum, on avait déjà fait un épisode à ce sujet, d'ailleurs avec toi, hein, David. Juste pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi cet épisode, Ethereum, en deux mots, par exemple, par rapport à la blockchain Bitcoin.
En quelques mots, c'est une technologie blockchain avec les mêmes capacités que Bitcoin, mais en plus... Il y a la possibilité de créer des smart contracts qui sont en fait du code qui tourne sur la blockchain.
D'accord. Alors justement, est-ce que tu peux revenir sur ce principe de contrat ?
Alors un smart contract, c'est du code qui est donc déployé sur le réseau et donc qui ensuite va pouvoir réagir selon les transactions et les appels qu'on fait sur lui. Et l'idée est que ce code est non modifiable et va être exécuté comme n'importe quelle transaction sur un blockchain sur tous les nœuds du réseau.
D'accord. Et donc ça sert à quoi ces contrats ?
Alors ces contrats servent principalement à pouvoir gérer les interactions entre plusieurs intervenants sur le réseau. Le très bon exemple est justement celui dont on va parler aujourd'hui, qui est le DAO, qui est l'organisation autonome décentralisée, où l'idée ici est de pouvoir organiser de manière autonome l'interaction entre divers investisseurs qui vont investir dans un projet, que ce soit quelconque. Et là, pour ce projet précis, c'était surtout Slowkit, qui était un lock qui utilisait la technologie d'Ethereum.
Alors, ça gère quel genre d'interaction entre les investisseurs ?
Alors, ça peut être de la gestion de où vont les fonds, de aussi quelles sont les règles en fait d'utilisation des ressources, que ce soit monétaires ou aussi de valeur, parce que chaque smart contract peut garder un état en fait, comme n'importe quel objet. Si on parle de langage de programmation, les objets ont des propriétés à l'intérieur. Ben, le smart contract, c'est un peu la même chose.
Alors concrètement, si on devait illustrer avec un exemple.
Ben un exemple, on pourrait par exemple gérer un système de vote avec plusieurs personnes. Ou par exemple, on va poser, un exemple tout simple, on est au travail, on veut savoir si on veut aller manger au restaurant A ou B. Mm-hmm. Et ben les gens peuvent aller voter peuvent créer un smart contract pour faire pour voter là-dessus. En étant sûr que personne ne peut tricher, personne ne peut voter pour quelqu'un d'autre et personne ne peut aller changer les informations sans l'autorisation des autres.
D'accord. Et donc là, l'attaque sur la DAO, elle consiste en quoi ? Quel est le principe de cette attaque ?
Alors cette attaque, c'est une vulnérabilité d'appel récursif. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le code de split du DAO, pour expliquer concrètement ce que c'est le split, c'est que les gens pouvaient quitter le DAO et prendre leurs fonds avec eux. Mais le problème, c'est que dans ce code-là, le code envoyait l'argent avant de mettre à jour les informations. Maintenant, lorsqu'on envoie de l'argent à un smart contract, eh ben, lui peut aussi exécuter du code, voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ici, le DAO envoyait de l'argent à un smart contract. Le smart contract rappelait la même fonction et il retournait dans la même fonction. Il n'allait jamais plus loin et donc ne mettait jamais à jour le nombre de tokens de la personne, etc., etc. Et donc, on allait dans une loupe infinie où on vidait la DAO.
Et parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'au départ, le projet DAO est un sous-ensemble d'Ethereum qui a été financé par les créateurs d'Ethereum à hauteur de 11 millions d'Ether. Et aujourd'hui, l'attaquant avec cette attaque a été capable de siphonner 3,5 millions d'Ether du pool initial. Donc, ce qui représente à peu près 60 millions de dollars en market value aujourd'hui.
Et donc là, est-ce que ces Ethers sont perdus à jamais? Qu'est-ce que va faire Ethereum?
Alors, la saga continue. On n'est pas encore sûr exactement ce qui va se passer. Il y a un grand débat qui fait rage aujourd'hui dans la communauté. Si on doit faire ce qu'ils appellent un soft fork et un hard fork. Alors, l'idée du soft fork est en fait de modifier le code des nœuds du réseau pour empêcher tout transfert de Ether du DAO et de tous ses enfants. En fait, pour geler cet argent, pour que l'attaquant, même s'il a réussi à prendre cet argent, ne peut rien en faire. Et pour laisser le temps aux gens, et surtout, c'est-à-dire à la fondation et aux créateurs du DAO, de trouver une solution pour faire un hard fork, qui est donc là carrément un rebranchement de la chaîne de blocs, pour en fait pouvoir rapatrier cet argent dans le DAO et pouvoir rendre l'argent à tout le monde.
Mais est-ce que le principe justement de la blockchain, c'était pas de faire en sorte que lorsque il y a une transaction, elle est irrépudiable, elle est faite, elle est inscrite dans le marbre?
Ben, c'est toute la discussion aujourd'hui. C'est la grande discussion de est-ce que si la communauté arrive à un consensus selon lequel il doit être pragmatique et changer cette information, est-ce qu'on doit le faire ou non? Et c'est la grande discussion aujourd'hui. Le point qui est mis en avant aussi est que Ethereum reste un projet en développement, il n'est pas fini, surtout au niveau de l'attaque, c'est-à-dire que il manque cruellement encore d'outils de sécurité, d'outils de gestion de ce genre de problème. Et ça reste très, très risqué d'écrire un DAO, d'autant plus s'il détient 200 millions de dollars à l'intérieur.
Oui. Ce qu'on peut dire, c'est que les DAO en fait, sont écrits dans un langage qui s'appelle le Solidity Programming Language et qui est assez proche du JavaScript. Et donc, techniquement, il peut y avoir des bugs. La différence, c'est que quand on envoie un programme dans la blockchain, il est impossible à patcher.
C'est exactement le souci, et c'est le gros souci qu'on a aujourd'hui, c'est que finalement, la faille du DAO est toujours présente et on ne peut pas la patcher. Parce que pour la patcher, ça prendrait au moins 2 semaines, parce qu'il faudrait créer une proposition de patch que la communauté du DAO devrait accepter. Et il y a un temps de débat, de discussion de au moins 2 semaines. Donc, on devrait attendre au moins 2 semaines pour pouvoir patcher ça. Et il est impossible de faire même un white hat attack sur le DAO, parce que si maintenant on prend les gens de la fondation qui créent un split pour essayer de faire la même chose que l'attaquant finalement, mais pour essayer de sauver les Ethers qui restent, et ben en fait n'importe quel attaquant pourrait rejoindre ce split et refaire l'attaque de la même manière et on n'aurait rien fait.
Alors Christophe Renard, qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Il y a quand même 2-3 trucs qui me chagrinent. Alors d'abord, j'ai vu un post qui apparemment était fait par quelqu'un qui se revendique l'attaquant, qui expliquait que lui il trouvait que c'était pas un bug mais que c'était parfaitement par des règles et que finalement l'argent il l'avait eu parce qu'il avait utilisé un incentive à créer des forks. Donc, je serais curieux de savoir un peu ce que ça donne. Je suis un peu dans la position du sceptique de ce qu'est blockchain, parce que j'ai l'impression que c'est pas encore bien sec, et j'avoue que j'ai du mal à comprendre le délire de faire tourner des centaines de millions sur quelque chose dont, d'après ce que j'avais compris, Ethereum, la façon de calculer, est encore en bêta, et on est en train d'affiner des mécanismes qui seront pas finis avant l'année prochaine. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu quand même une espèce de délire qui amène à des choses assez prévisibles. C'est j'envoie des centaines de millions sur Internet sur un truc pas fini et il y a un gars qui en abuse et surprise.
Tu sais, des startups à plus de 100 millions qui ont explosé en vol, il y a eu pas mal de cas. Hein. C'est pas parce que tu vaux 100 millions que... Mais je crois que la fondation Ethereum, enfin la valorisation d'Ethereum aujourd'hui, elle atteint plutôt le milliard de dollars. Hein.
Oui, mais je pense aussi que pour avoir eu l'occasion de parler avec le CTO Christopher Jentsch de Slowkit, qui a écrit justement le DAO, eux-mêmes ont été surpris. À la base, ils disaient on espère arriver à lever au moins 500 000 dollars. Ils se sont retrouvés avec, justement, le jour de l'attaque, 225 millions. Ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Leur but était de lever, on va dire, 10-15 millions pour pouvoir faire leur projet Slowkit, pour pouvoir créer leur réseau de partage. Et ensuite, avec cet argent, ils espéraient pouvoir financer d'autres projets et devenir ce super DAO et ce super réseau incroyable. Et aussi, on a vu qu'ils ont été tellement focalisés sur le vecteur d'attaque au niveau des propositions qu'ils ont rendu quasi impossible pour les gens de sortir. Et donc, résultat, les gens sont bloqués et puis il y a eu une faille et puis les gens peuvent plus ou moins rien faire là.
Qu'est-ce que tu veux dire par sortir? Tu veux dire récupérer son argent?
Voilà, ça veut dire pouvoir brûler ses tokens, brûler les tokens du DAO et les retransformer en Ether. C'était quelque chose qui a toujours été mis en avant comme quelque chose de faisable et il était dit relativement facile et il s'avère que c'est un processus d'environ 40 jours.
40 jours, c'est pas dramatique. Si tu récupères ta mise à la fin, tu pourrais attendre 40 jours.
Alors, si on récupère la mise à la fin et qu'il n'y a pas une attaque en cours, c'est gérable. Quand il y a une attaque en cours, c'est un peu plus problématique.
Alors, selon toi, comment les choses vont évoluer?
Alors, le soft fork a l'air d'être plus ou moins accepté par les mineurs et donc va être, il semblerait, appliqué. Donc, l'attaquant, il semblerait, n'arrivera pas à avoir son argent qu'il a volé. Maintenant, il y a beaucoup de discussions selon lesquelles il a sûrement fait déjà de l'argent de manière alternative, vu qu'il savait très bien que le cours du Ether allait s'écraser et le cours du DAO allait s'écraser. Il y avait d'autres manières pour lui de faire de l'argent.
C'est-à-dire?
Sur toutes les plateformes d'échange, on peut faire ce qu'on appelle des shorts. Ça veut dire qu'on mise sur la dévaluation d'une monnaie. Il avait une information assez claire selon laquelle ça allait arriver. Donc, il aurait pu placer ça et sa valeur a baissé d'environ 50%. S'il a placé assez d'argent, c'est une info. Et qu'il a mis un levier assez important, il a pu se faire déjà beaucoup d'argent rien qu'avec ça. Maintenant, la grande question de ce qui va se passer après, comment cet argent va être récupéré, alors, il y a des pistes, mais c'est vraiment pas clair comment ça va se passer. Il y a eu un article du lead developer de Slowkit pour essayer de faire une contre-attaque et essayer de voler l'argent à la personne. Mais c'est très compliqué et il y a beaucoup de chances de faire des erreurs et de tout perdre. Donc, la saga continue.
Et le fameux message sur Pastebin, il est authentique ou pas? Ou le soi-disant attaquant dit que c'est pas du tout un attaquant, mais que il a simplement utilisé un contrat et donc si jamais on lui reprend son argent, il va envoyer ses avocats.
Alors, il y a deux choses. La première chose est que sa signature ne colle pas. Donc, est-ce que c'est lui? C'est possible, mais c'est pas prouvé. Après, la rhétorique selon laquelle il veut attaquer les gens du réseau si on lui bloque son argent, je suis dubitatif. Tout simplement parce que l'intention du code était clairement pas celle-là. Et ça sera très difficile pour lui de prouver que il était dans son bon droit et que cet argent lui revient.
Donc finalement, même dans une organisation autonome et des... DAO, distributed, comment tu traduis?
Décentralisé.
Tu as quand même besoin d'une instance judiciaire à un moment qui fait le ménage.
Je pense que le souci dans tout ça, c'est que c'est le mot décentralisé. Parce que finalement, il y avait quand même beaucoup de centralisation d'avoir pour un système décentralisé.
Et David, toi qui vois de l'intérieur, juste, quelle est ton évaluation de la maturité d'Ethereum aujourd'hui et de l'idée de faire dessus des systèmes live qui brassent des valeurs importantes?
Je pense que le plus grand souci aujourd'hui, c'est que c'est très difficile d'être absolument sûr que son code est correct. Et c'est vrai que si on n'est pas préparé à le faire, c'est très difficile de le patcher. Donc, je pense qu'on est dans une situation aujourd'hui où on est obligé, si on veut partir live sur ce genre de système, trouver des moyens de mise à jour rapide et des moyens de réagir beaucoup plus rapidement que ce que le DAO a fait. Parce qu'un des gros problèmes du DAO aujourd'hui est qu'il est relativement immobile en tant que projet. C'est très difficile de changer les choses. Avant l'attaque, on parlait que finalement cet argent allait sûrement rester des mois et des mois sur ce DAO parce que rien allait être décidé. Et c'est ce genre de problème que les gens n'ont pas encore. On n'a pas l'habitude en fait d'y penser parce que d'habitude c'est une entreprise et puis elle décide rapidement. Il y a le CEO, il y a le CTO, ils discutent autour d'un café et puis ils disent allez on fait ça et puis on y va. Et vouloir trouver le consensus avec 8000 personnes ou 10000 personnes, c'est tout de suite plus compliqué. Même si on doit prendre que 20% de ces 10000 personnes, 2000 personnes, c'est pas facile à convaincre. Vitalik a écrit un article là-dessus où il parlait des bugs qu'il y a sur les contrats et un peu qu'est-ce qui a bloqué. Et je dirais que au-delà des bugs, disons, standards qu'on a dans les programmes, on a toujours ce genre de soucis. Les deux gros problèmes qui sont nés avec Ethereum, qui montrent juste que c'est trop neuf et les gens n'ont pas l'habitude de penser à ça, sont la consommation de gaz. En gros, le code est trop compliqué et donc il aboutit jamais. Et donc l'argent reste bloqué dans le smart contract. Et la deuxième est justement cet appel récursif qui n'est pas du tout intuitif parce que se dire que parce que j'envoie de l'argent, je vais me retrouver avec quelqu'un qui me rappelle derrière, c'est pas la chose la plus intuitive du monde.
Tu peux préciser que le gaz, c'est l'unité de compte, enfin c'est le sous-unité de l'Ether, quoi.
Alors le gaz, en fait, c'est ce qui est utilisé pour faire tourner les programmes sur le réseau Ethereum, et donc c'est payé en Ether. C'est la seule manière de pouvoir acheter du gaz en Ether. Et le cours du gaz est géré dynamiquement sur le réseau. Alors, il y a des petites choses, c'est en train de se faire. Il y a le projet EtherCamp qui a fait un IDE web, qui commence à faire des choses, commence à faire des debuggers et tout ça. Mais au niveau d'analyse statique et analyse de sécurité du code, le projet a moins d'une année et on n'est pas encore là, quoi.
Moi, j'ai l'impression, je sais bien ce que tu en penses, mais que c'est vraiment lié à la complexité, comme tu le disais. Tant qu'on aura la possibilité de mettre du code complexe, je vois pas comment tu pourrais être garant de ne pas faire de bugs. Et donc, forcément, s'il y a des bugs, faut pouvoir les corriger. Et là, tu te retrouves avec cette boucle. Tu dis, ben non, je peux pas le corriger, puisque le principe, c'est de pas corriger. Et...
Alors, une des choses qui a commencé à se dire, puis c'est quelque chose que moi, c'est plus moi aussi mon inspiration quand on parle de langage programmation, c'est que si on avait un langage de programmation plus fonctionnel ou avec un système de type plus complexe où on pourrait vraiment vérifier à la compilation du code si les choses étaient correctes, on reste... Voilà, exactement, quelque chose comme ça. Mais même, les gens parlaient de faire quelque chose en Haskell, ça pourrait déjà être intéressant. Le souci ici, c'est que c'est plus qu'on est dans un système où ben on a toujours des integer overflow, ça veut dire qu'on peut toujours se retrouver avec des chiffres tout d'un coup qui retournent à zéro alors que parce qu'on a on a additionné des chiffres trop grands et ce genre de choses. Et pour les gens qui ont l'habitude de programmer avec des langages plus haut niveau, on n'a plus l'habitude d'avoir ce genre de problème, donc on n'y pense plus forcément.
Peut-être du Go, non?
Ou du OCaml, c'est plus utilisé dans l'industrie.
Ouais. Après, est-ce que le contrat, il doit être forcément complexe? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des choses très très basiques, très...
À la base, ça devrait être le cas. Le but du contrat n'est pas de faire de la logique, genre la logique métier ou ce genre de choses. Elle est vraiment là pour s'assurer de l'intégrité et de la les informations dans le contrat soient correctes. Les exemples qui sont donnés sont souvent genre un jeu, par exemple un jeu d'échecs où le smart contract, tout ce qu'il fait, c'est s'assurer que les mouvements qui sont faits sont corrects. tout le reste doit être fait à l'extérieur, parce que ça n'a aucun sens de le mettre ça dans Smart Contract.
Bon, et bien, comme tu le disais, la saga continue. Alors, on fera peut-être un update les jours prochains pour donner plus d'informations à nos auditeurs. D'ici là, merci beaucoup de ta participation, David.
Avec plaisir.
Nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous disons donc à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.
Au revoir.
Au revoir.